Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Namoury Dosso.
Merci d'être avec nous jusqu'à 9h. L'antenne est à vous. Dans 30 minutes, nous ouvrirons le débat en République centrafricaine. Les autorités ont fait savoir qu'elles souhaitaient ouvrir un dialogue politique avec l'opposition à quelques mois de la présidentielle prévue en décembre prochain. Fidel Gwandjika, un proche conseiller du président Faustin Archange Touadéra, a confirmé cette volonté à l'antenne de RFI. Maître Crépin Boligumba, le coordinateur du BRDC qui regroupe les principaux partis de l'opposition et de la société civile, s'est montré ouvert à l'idée d'un dialogue. Néanmoins, il dénonce une posture médiatique faite pour tromper. Alors, qu'en pensez-vous? Comment interprétez-vous la main tendue du pouvoir à destination de l'opposition en Centrafrique? Est-ce que cela vous semble pertinent? Vos réactions nous intéressent. On vous attend au standard. 33 9 693 693 70. Je lirai également les réactions que vous nous avez envoyées via le WhatsApp et le Facebook de l'émission. Mais d'abord, votre rendez-vous pour mieux saisir et comprendre l'actualité avec vos questions, auxquelles répondent des journalistes de la maison et des experts. Nous sommes en ligne avec Jean Bernard. Bonjour Jean Bernard.
Bonjour.
Vous nous appelez de Douala au Cameroun où il est actuellement 9h12. Ce qui a retenu votre attention, c'est la mort de plusieurs dizaines d'hippopotames en République démocratique du Congo. Alors pour vous répondre, Jean Bernard, nous sommes en studio avec Pauline Berger, journaliste au service environnement et climat de RFI. Bonjour Pauline.
Bonjour Namoury, bonjour Jean Bernard.
Jean Bernard, on écoute votre toute première question.
Voilà, une cinquantaine d'hippopotames sont morts dans un parc national en RDC. Les scientifiques parlent d'une contamination à l'anthrax. Qu'est-ce que l'anthrax?
Alors, Jean-Bernard, Pauline vous répond.
Alors, l'anthrax, c'est une maladie infectieuse qu'on peut aussi appeler la maladie du charbon. Elle est causée par une bactérie, la Bacillus anthracis, qui est naturellement présente dans le sol. Et cette bactérie, elle peut pénétrer dans l'organisme des animaux et des êtres humains de plusieurs manières, une coupure par exemple, ou par inhalation. Alors, dans le premier cas, la contamination entraîne une infection de la peau. On verra apparaître sur la peau une petite bosse qui peut ressembler à une morsure d'insecte. Mais si on est contaminé par inhalation, là, on va plutôt ressentir des difficultés à respirer et des douleurs thoraciques. Alors l'important, c'est de traiter rapidement la maladie en prenant des antibiotiques, parce que si on la détecte trop tard, l'anthrax peut être mortel.
Jean-Bernard, on écoute votre deuxième question.
Comment cette bactérie s'est-elle retrouvée sur ces animaux?
Pauline Berger.
Alors, pour l'instant, on ne sait pas précisément si les animaux ont attrapé la maladie du charbon en respirant ou par infection cutanée. Mais comme la bactérie est présente dans le sol, il est possible que les hippopotames aient mangé de l'herbe ou bu de l'eau contaminée. D'ailleurs, l'anthrax affecte principalement les mammifères herbivores. Alors, pour l'instant, dans le parc des Virunga, on n'en est qu'au stade de l'épizootie, c'est-à-dire une épidémie qui frappe des animaux. Mais la maladie du charbon peut aussi être présente chez l'être humain.
Alors, enfin, Jean-Bernard, on écoute votre dernière question.
Oui, à ce stade, y a-t-il des risques de propagation?
Pauline Berger.
Alors, il faut déjà préciser que l'anthrax, ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est-à-dire qu'une personne contaminée ne peut pas la transmettre à quelqu'un d'autre. Ensuite, en termes de transmission, selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature, la maladie affecte pour l'instant principalement la faune sauvage. Mais la direction de cet organisme qui gère les parcs nationaux, comme celui des Virunga, précise aussi qu'il y a un risque potentiel de transmission à l'homme et aux animaux domestiques. Alors pour en savoir plus, j'ai contacté Ladislas Witanene qui travaille à la Société de protection du bassin congolais, une organisation de droit congolais. Pour lui, ce qui est inquiétant avec cette épizootie, c'est qu'elle a lieu dans une zone en plein cœur du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc il y a vraiment un risque que les riverains aillent chasser dans le parc des Virunga et qu'ils consomment la viande des animaux infectés. Donc il faut vraiment faire comprendre aux habitants que l'anthrax peut être très dangereuse pour l'homme.
Enfin Pauline, quels sont les conseils pour limiter le risque de contamination?
Les autorités conseillent d'éviter tout contact avec des animaux morts et de ne pas manger de la viande de brousse. Il faut aussi faire bouillir l'eau du lac Édouard si on la consomme, parce que les dépouilles des hippopotames ont été retrouvées dans une rivière au sud du lac. Mais toujours selon Ladislas Witanene, les autorités ont aussi un rôle à jouer pour prévenir la transmission de l'anthrax à l'homme, par exemple en cartographiant et même en clôturant les zones où des animaux malades pourraient se trouver.
Jean-Bernard, avez-vous toutes les réponses à vos questions ?
J'ai toutes les réponses, mais j'espère que ça ne va pas se propager, c'est tout ce qu'on espère.
On l'espère également. Merci Jean-Bernard et bonne journée à vous à Douala au Cameroun et également à tous les auditeurs qui nous écoutent depuis Douala sur le 97.8 FM ou encore à Yaoundé, la capitale, sur le 105.fm. Un grand merci également à Pauline Berger, journaliste au service environnement climat de RFI avec nous en studio ce matin. Nous accueillons à présent Janvier qui nous appelle de Moundou, la deuxième ville du Tchad. Bienvenue Janvier.
Oui, bonjour Namoré de Dieu, bonjour à toute l'équipe d'appel de l'actualité.
Janvier, vos interrogations portent sur un projet de l'Union européenne au sujet de taxes sur les engrais russes. Et pour vous répondre, Marie-Pierre Olfant, journaliste et voix de la chronique des matières premières sur RFI à 3h50 temps universel et 5h50 heure de Paris, est avec nous en studio. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour à tous.
Janvier, on écoute votre première question.
Merci beaucoup. L'Europe a décidé de taxer les engrais russes alors que ces engrais constituent l'écart des importations européennes. La première question, quelles solutions de substitution vont être mises en place pour compenser l'écart d'engrais manquant ?
Question intéressante, hein, Janvier. Marie-Pierre Olfant vous répond.
Oui, alors déjà pour l'instant, il faut juste préciser, rappeler que le texte n'est pas entré en vigueur. Il peut y avoir des rebondissements, par exemple un report de plusieurs mois, comme certaines filières agricoles le demandent. Donc on va être prudent, on va parler au conditionnel, mais effectivement, on peut déjà quand même évoquer les alternatives. Et les alternatives à l'achat d'engrais russes, ben, ce serait évidemment de se fournir plus ailleurs, c'est-à-dire au Maroc, par exemple, à Trinidad et Tobago, aux États-Unis. Les fabricants d'engrais ne manquent pas sur la planète et les pays européens ont déjà des marchés avec eux. L'autre solution, bien sûr, serait de produire plus sur le sol européen. On sait d'ailleurs que des fabricants européens d'engrais ont fait du lobbying auprès des instances européennes pour effacer la concurrence russe qui est imbattable en termes de prix.
Et Marie-Pierre, le problème, c'est que les capacités de production européennes ne sont pas illimitées et qu'elles ont été entamées depuis le début de la guerre.
Oui, et de nombreuses usines d'ammoniac et d'urée ont été suspendues ou fermées, faute de pouvoir s'approvisionner en gaz à prix raisonnable depuis le début de la guerre en Ukraine. Les fabricants sont aussi confrontés à une réglementation de plus en plus contraignante en Europe, une réglementation liée à leurs émissions de CO2. Ça fait donc beaucoup de freins qui font que la production européenne n'a pas retrouvé le niveau qu'elle avait avant la crise énergétique et qu'il lui faudra certainement du temps pour se réorganiser et produire plus pour pouvoir répondre éventuellement à une demande qui deviendrait tout d'un coup plus forte en Europe.
Janvier, on écoute votre deuxième question.
Merci Namoru pour la deuxième question. À l'image du boycott du pétrole et du gaz russe, cette décision ne risque-t-elle pas à faire augmenter le prix des engrais pour l'Europe et pour l'Afrique ?
Marie-Pierre Olfant.
Alors le prix, oui, c'est vraiment la question, parce que toutes ces alternatives qu'on vient d'évoquer ne seront bonnes, ne seront acceptables que si leur prix l'est aussi. Les responsables européens savent que les agriculteurs sont très inquiets et ont promis d'intervenir si la facture se mettait à grimper pour eux. Un des leviers à leur disposition serait de suspendre les taxes douanières sur les engrais de tous les pays qui fournissent l'Europe pour que les Européens arrivent à se fournir en engrais à bon prix comme les engrais russes qu'ils achetaient avant. Pour la production européenne qui est donc celle des fabricants européens, ça s'annonce plus difficile parce que là, son prix dépend de celui du gaz importé. Donc en Europe, oui, les prix pourraient grimper, mais cela ne devrait pas avoir d'impact pour les pays africains. Ils se fournissent directement auprès de fabricants marocains et russes en particulier. Donc les taxes que veulent imposer les Européens ne concernent pas l'Afrique. Peut-être même au contraire que les prix vont baisser. Si les Russes vendent moins en Europe à cause des taxes, ils enverront plus de quantité vers d'autres marchés et notamment vers les pays africains.
L'avenir nous dira hein, si un tel scénario se produit donc. Merci Marie-Pierre Olfant. Janvier, avez-vous toutes les réponses à vos questions ?
Merci beaucoup, je vous en prie.
Merci à vous, Janvier, puis on salue également tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent du Tchad. On va passer également à un troisième auditeur qui nous appelle cette fois de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, située dans l'est de la RDC. Soyez le bienvenu, Christian.
Oui, bonjour Namori, bonjour
Et bonnes vacances au génie des génies, l'international Juan Gomez, et bonjour à tous.
Juan Gomez, qu'on salue également et que vous retrouverez la semaine prochaine dans cette émission. Alors, Christian, ce qui vous a interpellé, vous, c'est l'épidémie de chikungunya à La Réunion. On écoute votre première question.
Merci bien, cher Namouri. J'ai lu sur RFI que l'épidémie de chikungunya, les chics, comme on les surnomme, ne cesse de se propager sur l'île de La Réunion. Alors, quelques questions de compréhension, cher Namouri. Comment expliquer les retours du chikungunya sur l'île et comment les autorités s'organisent-elles sur le terrain pour lutter contre cette épidémie?
Alors, on va tenter de répondre le plus clairement possible à vos interrogations, hein, Christian. Et pour cela, nous avons invité Annabella Fayou, professeure en entomologie médicale et chef de l'unité arbovirus et insectes vecteurs de l'Institut Pasteur. Annabella Fayou, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, hein. Notre auditeur voulait savoir, pour sa première question, comment expliquer le retour du chikungunya sur l'île de La Réunion?
En fait, la première épidémie de chikungunya sur l'île de La Réunion, c'était en 2004-2005. Et en fait, en dehors de ça, il y avait une circulation à bas bruit du chikungunya dans le monde. Et notamment en 2024, il y a à peu près plus de 500 000 cas qu'on a vu en Amérique du Sud et également en Inde. Et en fait, la survenue de cette épidémie actuelle à La Réunion est due à un cas importé et avec les premiers cas autochtones qui ont été détectés en août 2024.
Alors Christian souhaitait également savoir comment est-ce que les autorités s'organisent sur le terrain pour lutter contre cette épidémie?
En fait, les autorités sanitaires s'organisent comme le font classiquement depuis 2018 sur un modèle de lutte contre la dengue, puisque le vecteur du virus de la dengue est le même que celui qui assure aujourd'hui la transmission du chikungunya. Donc, en cas de symptômes, on va voir le médecin et le médecin prescrit une analyse. Et quand la PCR revient positive, il y a tout un cheminement de lutte antivectorielle autour des maisons de ces personnes infectées. Et de cette façon, on essaie de circonscrire en fait l'évolution de l'épidémie.
Alors Christian, à Bukavu, dans l'est de la RDC, vous aviez une troisième question pour notre invité.
Tout à fait. Pourquoi alors les autorités sanitaires veulent-elles rester prudentes dans la communication des chiffres des personnes touchées et décédées?
Annabella Fayou vous répond.
Je réponds. Donc, en fait, l'épidémie a commencé en août 2024 et pendant l'hiver austral. Donc, il y a eu très peu de cas. Mais depuis le début 2025, avec l'été dans l'hémisphère sud, le nombre de cas a augmenté. Et aujourd'hui, en fait, il y a tellement de cas que les gens ne vont plus consulter. Ils ne vont plus consulter, ils ne vont plus se faire prélever. C'est pour ça qu'en fait, il y a une espèce de différence entre les cas confirmés qu'on peut obtenir parce qu'on a fait une PCR et que la PCR revient positive et le nombre de cas suspectés en fonction en fait des enquêtes qu'on peut faire autour de chez soi. Par exemple, aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 cas confirmés et 100 000 cas répertoriés en faisant des enquêtes autour des maisons.
À noter que 3 nouveaux décès liés au chikungunya ont été enregistrés à La Réunion, portant à 9 le nombre de morts selon les autorités sanitaires françaises, qui soulignent que l'épidémie se stabilise à un haut niveau. Christian, est-ce qu'on a pu répondre convenablement à vos interrogations?
Oui, merci beaucoup, j'ai été satisfait.
Eh bien, on remercie également Annabella Fayou, professeure en entomologie médicale et chef de l'unité arbovirus et insectes vecteurs de l'Institut Pasteur. Merci à vous. Nous sommes désormais avec Alex de Bangui en République centrafricaine. Soyez le bienvenu, Alex.
Merci, monsieur Dessau, bonjour.
Alors, vous aviez notamment des questions en ce qui concerne le président colombien et le Salvador. Quelle est tout d'abord votre première interrogation, Alex?
Oui, en fait, j'ai entendu que le président colombien demande le rapatriement des citoyens emprisonnés au Salvador. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il reproche à ces Colombiens incarcérés?
Alors, pour le savoir, Alex, nous avons contacté Pascal Drouot, président de l'association LATRAN et spécialiste des relations internationales. Pascal Drouot, soyez le bienvenu.
Je vous remercie, bonjour.
Alors la question à notre premier auditeur portait sur ce que l'on reproche à ces Colombiens incarcérés.
Il y a en effet au Salvador 130 Colombiens dans les prisons salvadoriennes et non pas dans le CECOT, ce centre de confinement du terrorisme dont nous entendons tous parler. En fait, ces Colombiens ont été arrêtés, mais déjà à partir de 2023. Pourquoi ? Pour extorsion sur les remessas, vous savez, ces flux financiers extrêmement importants de la communauté colombienne qui vit à l'extérieur, pour extorsion sur les prêts, notamment. Et ces Colombiens, depuis le Salvador, et eux-mêmes appartenant à un réseau qui existe depuis 1998 et qui s'appelle Gota a Gota, goutte à goutte, ont été arrêtés, en effet, au fil d'enquête et sont actuellement détenus en Colombie, au Salvador. Ça, ce sont les faits. Mais Alex met le doigt sur un sujet réel qui porte sur les tensions régionales, sur la problématique de la sécurité. Nous savons qu'en Amérique centrale et en Colombie notamment, la sécurité est un des sujets essentiels aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan de la vie quotidienne. Et là, les différences de perception et de politique entre Nayib Bukele, le président salvadorien, et Gustavo Petro, le président colombien, sont très fortes.
Alors, le président Donald Trump a érigé depuis son retour à la Maison-Blanche fin janvier la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, réactivant pour cela une loi qui date de 1798, normalement utilisée en temps de guerre. Il a envoyé au Salvador plus de 250 personnes accusées d'appartenir au Tren de Aragua, un gang vénézuélien qui opère aussi à l'international, dont en Colombie. Alex, vous aviez une deuxième question pour notre invité.
Oui, justement. La Colombie a-t-elle des moyens de pression sur le Salvador ?
Pascal Drouot.
Alors, je ne crois pas, sur le plan politique, aujourd'hui, compte tenu de la ligne tenue par Nayib Bukele, qu'il y ait des pressions. Bien au contraire, on a vu ces derniers jours que Nayib Bukele, et justement concernant les 240 Vénézuéliens, membres de gangs vénézuéliens détenus au CECOT, a une position forte qu'il considère une position souveraine de lutte contre l'insécurité qui porte aussi dans une dimension régionale. Et en fait, le débat, au-delà de la dimension purement judiciaire, s'est transporté ces derniers jours sur la place politique. Et l'on voit bien qu'il y a un axe désormais entre Nicolas Maduro, Gustavo Petro, qui a de très grosses difficultés dans l'application de sa politique de paix totale, qui était le sujet de son élection en 2022. Alors, est-ce une diversion ? Est-ce une volonté désormais d'affronter la position de Bukele et à travers Bukele l'alliance avec les États-Unis ? Nous le verrons prochainement, mais je pense qu'il y a un peu de tout ça dans l'intervention de Gustavo Petro réclamant les prisonniers colombiens qui, je le rappelle, ont été arrêtés suite à 3000 plaintes pour extorsion financière, en fait.
Alors, juste une dernière question à Pascal Drouot. Est-ce que la Colombie pourrait, d'une certaine manière, mettre la pression sur l'administration Trump et entrer dans une forme de crise diplomatique avec Washington, selon vous ?
Tout est possible, mais ça me paraît difficile. Parce que la situation colombienne est justement actuellement de plus en plus difficile. On est à la dernière année, dans la dernière année de Gustavo Petro, qui fait face à une recrudescence de la violence. On a un taux d'homicide de plus de 25%, 25 pour 1000 en Colombie. Je vous rappelle qu'au Salvador, c'est 1,9. Je pense qu'en fait, c'est une confrontation entre les tenants, entre guillemets, du Sud global contre ceux qui pourraient être l'Occident global. Mais en fait, très concrètement et au quotidien, il s'agit de ceux qui luttent contre une insécurité qui a eu des effets extrêmement importants. Au Salvador, ces 10 dernières années, ce sont quand même 41 000 personnes qui ont été assassinées, rapportées à la population, en l'occurrence française, ce serait entre 300 et 400 000 personnes. Mais donc il fallait réagir.
Merci Pascal Drouot pour vos explications. Merci également à Alex de Bangui qui vous interrogeait au sujet de cette situation entre la Colombie et le Salvador. Restez avec nous juste après le journal. Le débat d'appel sur l'actualité.